إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alors, on va y arriver. Alors, ce cours, ce matin, premier cours de la journée à l'Institut Al-Tawhid sur notre matière, le fiqh. Le fiqh. Alors, barakallahu fikum, à propos du fiqh, de quel fiqh on parle, à votre avis? De quel fiqh on parle? C'est quoi le fiqh? Qui peut répondre à cette question? De quel fiqh on est en train de parler? Ahsan Cheikh Abu Youssouf, ainsi que notre étudiante, fiqh al-ibadat, très bien pour les étudiantes également, très bonne réponse. Jurisprudence dans les adorations, très bonne réponse, mashallah également, chez les étudiantes encore. Très bien. Alors, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de manger. C'est du habbes saouda. C'est du habbes saouda. Taïb. Le fiqh, la jurisprudence dans les adorations. Ahsan Sir Bilal également. Cheikh Bilal également. Masha'Allah, barakallahu fiikum. C'est très bien. Très bonne réponse. Naam. Quand je dis à votre avis, hein, c'est-à-dire dans ce que vous connaissez par rapport à la législation. Parce que vous savez que dans l'islam, dans la législation, il n'y a pas d'avis. Mais là, entre nous, c'est une expression pour dire par rapport à ce que vous connaissez dans, concernant les cours précédents. Donc, quelle est l'importance, par rapport à ce que vous connaissez, quelle est l'importance de cette matière, le fiqh? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre religion? À votre avis? On ne va pas tomber dans les innovations Ahsent. Sans le fiqh, nous ne serons pas comment pratiquer nos adorations. Ahsent également, Cheikh Bilal. Conformité à la sunna, effectivement, masha'Allah. Se conformer aux préceptes, effectivement, très bien. Très très bien. Quoi d'autre? Y aura-t-il autre chose? Se conformer à la sunna et à la voie des pieux prédécesseurs, masha'Allah. Très bien également. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Hein. Mais par rapport à le tawhid, oui, effectivement. Effectivement. Pas directement, mais le fiqh a un lien avec le tawhid. Il est en lien avec le tawhid. Mais une réponse plus ciblée par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le rapport du fiqh? Je regarde s'il n'y avait pas déjà un frère. Oui, déjà, on adore Allah avec science. S'il n'y avait pas, se détourner du shirk. Oui, mais ça, c'est indirect. Concernant le fiqh, on parle du petit fiqh. Donc, connaître Allah, oui. Mais ça, c'est, ça touche plus le tawhid. Arsène, Cheikh Abou Youssouf. Cheikh Bilal, Cheikh Abou Youssouf. Très très bonne réponse. Sans le fiqh, nous ne saurons pas comment pratiquer nos adorations, connaître les jugements des adorations. On adore Allah avec science. Naham, tout ça, savoir ce qu'on a le droit de faire, effectivement également. Valider ses œuvres, effectivement. Naham. Oui, tout ça c'est bon. Hein. Tout ça c'est bon. Juste la réponse, tout ça c'est des bonnes réponses. Juste la réponse principale, c'est que le fiqh, il va t'indiquer comment tu vas adorer Allah. Comment tu vas faire la prière. Comment tu vas faire la zakat. Comment tu vas faire le hajj. Comment tu vas prier en voyage. Comment tu vas te marier. Les conditions du mariage, les conditions de la prière, tout ça c'est du fiqh. Et le fiqh, il tourne autour de ça, c'est-à-dire, il va t'indiquer, et le mot est faible indiqué, hein, comment tu vas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le point le plus important du fiqh. Retenez-le bien. Ça, c'est le point le plus important du fiqh. C'est qu'avec le fiqh, tu vas savoir comment adorer Allah. Alors, ne vous inquiétez pas. Normalement, si on est... Alors, on n'est pas là pour se lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Mais normalement, si un enseignant il est compétent, il doit cibler par rapport à des questions-réponses. Il doit être capable de cibler des choses qu'il doit éclaircir par rapport à ce qu'il aura, par rapport à ce qu'il aura plus ou moins cerné dans les questions-réponses. Alors, à ce propos, il faut bien faire la différence. C'est que le fiqh, il va plus traiter des adorations physiques, pécuniaires, vous voyez, en elles-mêmes. Il va plus, le fiqh, al-ibadat, le fiqh dans les adorations, ce qu'on va étudier ici, il va plus traiter des adorations physiques, comme la prière, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle le fiqh, la jurisprudence. Mais il ne va pas directement traiter des adorations du cœur. Ça revient au tawhid, plus principalement. Il y a donc une différence entre les adorations du cœur et les adorations physiques, même si elles ont un rapport entre elles, même si elles ont un rapport. On va vous citer des exemples. Par exemple, une adoration du cœur qui est la confiance en Allah, qui est par exemple l'espérance que tu dois vouer, ou la peur, des adorations qui sont des adorations du cœur que tu dois vouer exclusivement à Allah. Ça, on va dire que c'est le tawhid qui gère ces choses-là. D'accord? On va traiter ces choses-là dans la matière qui se nomme le tawhid. Mais quand on va parler, même si ce sont des adorations, de genre d'adoration physique, comme la prière, comme le jeûne, la zakat, etc. On est d'accord que ce sont des adorations, mais elles ont une jurisprudence. Elles ont une jurisprudence. Ça veut dire qu'elles ont des conditions, une définition, des choses qui invalident. Tout ça, c'est du fiqh, c'est de la jurisprudence. Là, c'est dans ce cadre-là que on est en train de s'instruire. J'espère que vous avez tous compris. Alors, n'empêche qu'il y a un lien entre le fiqh et le tawhid, c'est pour ça, alhamdoulillah. Si vous avez compris, alhamdoulillah. N'empêche qu'il y a un lien entre le fiqh et le tawhid. Déjà, on appelle ça des adorations, donc ça touche le tawhid. Et également, je ne sais pas si on l'a dit dans les cours précédents, mais je pense qu'on le dira plus tard, mais je sais que c'est dans votre programme, c'est que on a le tawhid comme matière de base, la matière principale, la science, on va dire, principale, la science la plus noble, comme le disent les savants, la science la plus noble. Mais il faut savoir que c'est la science principale dans le sens où toutes les autres sciences, elles sont dérivées, elles découlent du tawhid. C'est le général. Le tawhid, c'est le général de l'armée. Taïb. Et toutes les autres, du moins la plupart des autres sciences, elles découlent du tawhid. C'est pour ça qu'on va, on va pas dire non, les sciences, le fiqh, il a aucun rapport avec le tawhid, tout ça, ce serait faux. Mais quand on vous pose la question, quel est le rapport principal, et de quoi on parle dans le fiqh, maintenant, inshallah ta'ala, vous êtes capable. Ahsan Cheikh Bilal, le tawhid, c'est la base par laquelle découle tout le reste. Voilà. C'est très bien dit en une phrase. Ahsan Cheikh Bilal, mashallah. En une phrase, hein. Je répète, si vous voulez noter ou enregistrer. Le tawhid, c'est la base par laquelle découle tout le reste. Mashallah. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Alors, qui peut nous dire quel est le sens du terme firqa? Ça veut dire quoi, firqa? Dans la langue arabe. Hein? Ou même dans la législation, on peut le dire aussi. Ça veut dire quoi, firqa? Le mot firqa. Ça, c'est important. Mashallah, la compréhension. Arsent, la compréhension. C'est ça que ça veut dire le firqa. Retenez tous, barakallahu fikum, le fiqh, ça veut dire, dans un certain contexte, oui, ça veut dire jurisprudence. Alors, Cheikh Bilal, oui, dans un certain contexte, ça veut dire la jurisprudence. Mais En général, le fiqh, ça signifie la compréhension. Lorsque le prophète, alors on va vous donner des preuves, hein. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour Ibn Abbas, comment le prophète alayhi salatu wa sallam s'est-il exprimé? Il a dit en arabe: Ô Allah, donne le fiqh à Ibn Abbas. Ô Allahumma fiqh Ibn Abbas. Ça veut dire, ô Allah, donne-lui dans un même temps la compréhension de la religion et la science dans la religion, la science également. Et on sait que Ibn Abbas, il est devenu par la suite un des plus grands savants dans le Coran. Explication du Coran. Un des plus grands savants parmi les compagnons. Et également, les savants utilisent un verset du Coran. J'ai pas le numéro parce que tout ce que je vous dis, c'est de tête. Un verset du Coran. Mashallah, mashallah. Man yulidillahu bi khayran. On va le prendre en troisième, celui-là. Mashallah, je l'avais pas en tête, mais c'est bien. Le hadith du prophète qui dit: celui à qui Allah ou Ta'ala veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il l'instruit dans la religion, c'est-à-dire il lui fait comprendre. Alors, le sens principal, c'est qu'il lui fait comprendre, mais ça comprend aussi, c'est-à-dire il l'instruit. Hein? Il lui donne de la science, mais le sens principal, il lui fait comprendre la religion. On a une troisième preuve, si vous voulez, dans la langue arabe, par rapport à la signification du terme fiqh, jurisprudence. Où le peuple de Shu'aib, le messager, le prophète Shu'aib, lorsqu'ils lui ont dit dans le Coran: Ya Shu'aib, la nafqahu, la nafqa. Ô Shu'aib, on ne. Alors ils ont utilisé le terme fiqh pour dire: on ne comprend pas ce que tu nous dis. On ne comprend pas ce que tu nous dis. Le terme comprendre dans le Coran, il a été mentionné par fiqh. Donc la première chose qui doit vous venir à l'esprit, lorsqu'on vous mentionne le terme fiqh, vous devez penser à la compréhension, barakallahu fiikum, à la compréhension, c'est très important. Maintenant, je pense pas qu'on l'a fait ça, mais je vais quand même vous poser la question. Et sachez que si on fait des petites questions-réponses comme ça, c'est la méthodologie des salafs. Vous allez n'importe où chez les vrais gens de la sunna. Avant chaque cours, il y a des petits questionnaires comme ça. Et croyez-moi, même pour ceux qui n'ont pas la capacité de répondre ou quoi, c'est très bénéfique pour eux. Alors je vous donne des techniques en tant que talibul ilm. Si tu n'as pas la capacité de répondre, prends un cahier et note tout ce que les autres répondent lorsque c'est vrai, hein, lorsque c'est validé par le professeur. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas t'instruire. Naam. Donc c'est pas pour rien, hein. Les savants, ils font ça. Voilà, nous on a été éduqués dans la science de cette manière-là. Voilà. Et puis, on a déjà expliqué qu'à l'Institut At-Tawhid, chacun vit son talab al-ilm comme il le souhaite. Il n'y a aucune. On n'impose rien. Il y a des personnes qui peuvent venir et qui sont à l'institut et hein, qui disent: moi, je veux juste écouter pour monter ma foi et tout. Bienvenue. Bienvenue. On va pas leur dire non, c'est pas possible. Non. Bienvenue. Il y en a d'autres qui veulent participer, avoir des notes. Vraiment, voilà, c'est l'école. Bienvenue. Et il y en a d'autres qui visent plus tard de devenir prêcheur, donner des cours, etc. Prêcheur, c'est pas forcément donner des cours, hein. Donner des cours, faire la dawa, tout ça, bienvenue également. Vous allez apprendre la méthodologie, etc. Toute façon, à peu près tout le monde, à un moment ou à un autre, faudra partager ce que vous avez appris dans votre famille, chez des sœurs que vous connaissez, des voisins, ce que vous voulez. Taïb. Alors, on a une troisième question également, encore une question. Ça, c'est pas sûr qu'on l'ait fait. Mais vous inquiétez pas, même si vous répondez pas, nous on répondra. faudra juste retenir pour la prochaine fois. On a dit qu'on étudiait la jurisprudence des adorations. Qui peut nous dire c'est quoi une adoration? Alors si vous avez la définition, on l'a pas fait encore, hein. On l'a pas fait encore, je le sais. Je le sais, on va le faire dans le Tawhid. Mais même si quelqu'un, vous pouvez regarder dans vos notes, dans un livre, où vous voulez, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a donné une définition de l'adoration. Et ça, faut que vous l'appreniez par cœur, c'est très important de savoir ce qu'est une adoration. Alors on laisse le temps, au cas où il y a des élèves qui veulent faire une petite recherche. Vous pouvez regarder où vous voulez. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a donné une définition de l'adoration. Et si vous ne trouvez pas, ce n'est pas un souci. Inch'Allah ta'ala, nous, on va vous donner la définition. Sinon, si vous avez autre... Mashallah, mashallah. Très bien. Tout ce qui englobe ce qu'Allah aime et agrée. Très bien. Ça, c'est le sens global de la définition de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Félicitations. Très bonne réponse. Alors, comme on n'est pas encore lancé, on vous laisse prendre vos marques, etc. Mais sachez que il y a des fois où on donnera directement des notes comme ça. Et aujourd'hui, si on aurait décidé de donner des notes, il n'y aurait eu que des 10 sur 10 ou des 5 sur 5. Allah ibarak, on est adoré Allah comme si tu le voyais. Oui, c'est une. Ça rentre plus dans la définition de l'ihsan, l'excellence, mais c'est bien. On vous a juste demandé. Donc c'est une réponse. Barakallahu fikum. De donner ce que vous savez. L'adoration est un terme qui comprend tous les actes et paroles apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée. Très très bien, mashallah. On a aussi Cheikh, on a aussi les étudiants qui répondent. Alors là, c'est formidable, hein. Vous avez trouvé, hein, la définition de Cheikh Al-Islam, hein. Vous l'avez trouvé, mashallah. Un acte qui vise à se rapprocher d'Allah conformément à la législation du prophète, culte exclusif. Et sincérité doivent être présents. Un acte qui peut être de différents types, langue, corps, cœur. C'est bien, Cheikh Naïm. C'est très très bien. Allah ibarak, c'est très très bien. Mashallah. C'est une définition. Soumission du cœur et des membres à Allah sans associer. Mashallah. Oui, ça aussi c'est une définition. Très bien. Félicitations à tous. Alors. Concernant, bon, ça, si vous préférez, ça touche plus le tawhid. C'est parce que là, on vous fait un petit, si vous voulez, un petit question-réponse profitable. On va appeler ça un petit question-réponse aujourd'hui profitable qui va être profitable pour vous. Vous allez prendre des fawaïd aujourd'hui, ce matin. Alors, en tout cas, pour les réponses, c'est très bien. C'est très bien. On va vous donner encore. Sur le terme adoration, et ça, normalement, on l'a fait dans le Tawhid, il me semble. Wallahu a'lam. C'est que le terme adoration, donc maintenant on a compris, si vous pouvez assimiler cette définition de Cheikh Al-Islam, ça serait vraiment pour le début, dès le début, pour un étudiant, alors là, c'est bon pour vous, hein. Si vous connaissez la définition, on va répéter. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, l'adoration est un terme qui comprend tous les actes et paroles apparents ou cachés qu'Allah aime et agrée. C'est ça l'adoration, définition d'adoration. Alors c'est pas à titre restreint exclusif, c'est-à-dire qu'il y a d'autres définitions, mais celle-là c'est la plus connue, wallahu a'lam. En arabe, al-ibada ismu jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة. طيب. Il arrive que des fois il y a des élèves qui aiment noter en arabe les définitions. Donc voilà, ou ne serait-ce que les entendre. Également, concernant le terme adoration, également concernant le terme adoration. Il me semble dans le tawhid qu'on l'a fait, mais je suis pas sûr. Vous savez, j'ai tellement de cours que des fois je confonds entre le cours de la première classe, le cours de la deuxième classe. On a aussi deux autres cours dans la journée, Naham. Voilà. Alors, l'adoration, il faut que vous reteniez que l'adoration, c'est un terme général. D'ailleurs, on le dit bien ici, chez l'islam, ismun jami'un, c'est un terme général. L'adoration, c'est un terme général dans quel sens? C'est-à-dire que quand tu cites le terme adoration, il ne faut surtout pas penser qu'en même temps, il indique dans un même temps le tawhid. C'est-à-dire l'unicité. L'adoration n'indique pas à tous les coups l'unicité. Alors pourquoi? Faut développer ça. Parce que le terme adoration, c'est un terme général. Donc ça veut dire quoi général? Ça veut dire que, on oublie hein, la définition de Cheikh al-Islam, hein, Ibn Taymiyyah, oubliez-la. C'est un terme général, ça veut dire que ça comprend toutes les adorations, celle du musulman, celle de l'associateur, toute adoration, même en dehors d'Allah. On appelle ça de l'adoration, on est bien d'accord. Donc dans un même temps, c'est un terme général, donc il faut faire attention que lorsqu'on veut citer le terme adoration, mais indiquer le tawhid, l'unicité, faut pas citer le terme adoration tout seul. Sinon, ça prête à confusion. Les associateurs à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, on est des adorateurs d'Allah. Tu vas leur dire, c'est pas vrai. Ils avaient Allah comme divinité. Et ils disaient, lorsqu'on leur disait qui est le créateur des cieux et de la terre, etc., ils disaient, c'est Allah. Mais pourquoi on dit qu'ils n'ont pas, ce sont pas des monothéistes. Ils n'ont pas concrétisé le tawhid. Eux, tu ne peux pas dire qu'ils ont tawhid. Et pourtant, ils adorent. Ils adorent Allah. C'est parce que pour indiquer le tawhid, Naham, il mettait entre un intermédiaire entre eux et Allah, effectivement. Ils avaient plus de 400 ou 600 divinités à l'époque. Alors, si tu veux indiquer le tawhid, le vrai tawhid, lorsque tu mentionneras le terme adoration, c'est pour ça qu'on dit le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul sans associé. Si tu dis juste c'est l'adoration d'Allah, tu as commis une erreur. C'est pas tu as commis une erreur dans ton intention à toi, c'est dans la manière que tu vas le prononcer. Si tu veux parler du tawhid aux gens et tu dis c'est l'adoration d'Allah, tu auras commis une erreur. C'est l'adoration d'Allah seul sans associé. Parce que l'adoration d'Allah, on peut trouver des sorciers qui adorent Allah. Il va à la mosquée, il fait la prière pour Allah et il a un cabinet de sorcellerie. Lui, il adore pas Allah, lui. Il adore Allah. Il va te dire, moi, j'adore Allah. T'as quoi à me dire pour me dire que, comment ça, je suis pas monothéiste? Moi, j'adore Allah. Comment tu vas lui répondre? Tu adores Allah, mais tu n'adores pas Allah seul sans associé, ce qui fait toute la différence. Pour indiquer le tawhid, tu dois dire adorer Allah seul sans associé. Donc là, ça rentre un peu la ma'bouda bi haqqin illallah. Effectivement, pas d'adorer en vérité à part Allah. Ça aussi, en une phrase, hein, c'est le sens de la ilaha illallah. On peut lui répondre aussi par le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire pas d'adorer en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on est un peu parti dans le tawhid. Il n'y a pas de mal. Hein. Il n'y a pas de mal. Des fois, on fait des cours de fiqh, qu'on va être en train de parler de tawhid. On peut être en train de faire un cours de Qur'an, on va mentionner du tawhid. Ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, ça va vous aider à faire la liaison et le rapport entre les choses. Maintenant, vous maîtrisez le terme fiqh. Et on est gentil, on ne vous demande pas la définition. On ne vous demande pas la définition, parce qu'on a donné une définition au fiqh dans la législation, si vous vous souvenez, dans les cours précédents. Alors on va la demander quand même, peut-être qu'il y a... Vous pouvez regarder vos notes, vos cahiers, tout ce que vous voulez. À votre avis, on avait donné une définition du fiqh. C'était quoi la définition du fiqh? Cheikh Abou Youssouf, le fiqh, c'est la connaissance de la science des jugements légiférés pratiqués dans les œuvres, tirés des preuves détaillées. Félicitations, Cheikh Abou Youssouf. Mashallah, très bien. Félicitations. Donc maintenant, vous connaissez le sens du fiqh dans la langue arabe. Dans la législation, on vient de vous donner une définition. N'oubliez pas ces choses-là, c'est important pour vous. L'adoration, pareil. L'adoration, hein. Vous avez maintenant une idée de l'adoration. C'est pas comme ça, on vous dit la jurisprudence dans les adorations et c'est tout, c'est juste un titre pour vous, il n'y a rien derrière. Non. Il faut savoir ce que tu étudies, il faut être curieux, il faut comprendre ce que tu étudies. Fiqh al-ibadat, la jurisprudence des adorations, normalement avec tout ce qu'on vient de dire ici, tu sais de quoi ça parle. T'as un petit bagage là pour expliquer, même si on te demande, tu seras capable d'expliquer. Taïb? Alors également, on avait expliqué, dans un premier temps également, si vous vous souvenez, on avait également expliqué que faut faire attention au terme fiqh. Faut bien le situer, le terme fiqh, jurisprudence, parce qu'il s'utilise dans plusieurs domaines. Le terme fiqh, il existe dans plusieurs domaines. Donc, est-ce que vous pouvez nous mentionner dans quel domaine, autre domaine, on utilise le fiqh? Et on vient d'en parler, hein. Indirectement, on vient de parler de ce domaine, pour vous éclairer un peu. Il y a le fiqh dans telle matière, et il y a le fiqh dans une autre matière. Comment on appelle ça? Masha'Allah, fiqh al-akbar, le grand fiqh, fiqh al-akbar. Et c'est quoi fiqh al-akbar? On vient d'en parler. On vient d'en parler, hein. En tout cas, c'est bien déjà d'avoir fiqh al-akbar. Masha'Allah, Cheikh Abou Youssouf, il nous dit, et Bilal, ils nous disent, c'est le tawhid, fiqh al-akbar. Masha'Allah, ça concerne le tawhid, na'am, ahsant. Ahsantoum. Il y avait quoi encore comme fiqh? Comment on l'appelle? Bah là, le fiqh qu'on est en train d'étudier. Comment on l'appelle par rapport au fiqh al-akbar, le grand fiqh? Nous ici, on étudie le petit fiqh, mashallah, mashallah. Très bien. Le petit fiqh qui est la jurisprudence dans les adorations. Alors, je vous dis pourquoi. Pourquoi le grand fiqh, le petit fiqh? C'est pas l'unanimité des savants. Il y a des savants, ils disent on n'appelle pas comme ça. Mais je crois que c'est Cheikh al-Islam, hein, qui est à l'origine, qui dit on peut, il me semble. C'est-à-dire que on a expliqué que le tawhid, c'était la matière principale. Donc les autres matières, elles découlent. Donc le tawhid, c'est le grand fiqh, la grande jurisprudence, la grande compréhension. Et le fiqh, c'est la petite jurisprudence. Alors, il ne faut pas prendre ça comme si c'était quelque chose de petit. Petit, c'est juste un nom. Mais le fiqh, il reste quelque chose de grandiose, sans lequel on ne pourrait pas adorer Allah comme il faut, convenablement, correctement. Sans le fiqh, comme l'ont dit si bien les étudiants précédemment, on va tomber dans les innovations, on va faire n'importe quoi, on va dire n'importe quoi, on va suivre les passions, la raison et les points de vue, et à ce moment-là, il va se passer quoi? Qu'Allah nous en préserve, c'est ce qui s'est passé pour énormément de groupes, eh ben, on va faire une nouvelle religion. Wa'audhu billah, qu'Allah, wa'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est comme ça que naissent de nouvelles religions, parce que le fiqh, il devient quelque chose tiré de la raison, des passions. Comme j'aime la musique, alors on va dire qu'on va essayer de trouver des fausses preuves pour dire que la musique elle est halal. C'est un exemple, hein. comme j'aime la musique, alors je vais m'inventer des preuves. Alors que si tu es sincère, lorsque vous cherchez quelque chose dans la religion, même si vous avez aucun parti pris, cherchez, faites une vraie recherche en étant sincère, comme celui qui va rechercher l'islam sincèrement. Et vous allez voir, vous allez tomber dans le vrai. Parce que tout est clair en réalité, l'islam il est clair. Et toutes les questions religieuses, du moins la plupart, quand il y a des divergences, c'est pas grave. Prenez ce qui vous a convaincu, mais sinon, tout est clair dans la religion. La musique, même si tu vas chercher, tu vas trouver que l'interdiction, elle est claire. Hein. Il y a des versets du Coran, hadith du prophète. Donc celui qui la rend halal, c'est parce que il aime la musique, c'est tout. Il peut pas s'en passer. Et il te dira pas, en vérité, c'est parce que moi, la musique, c'est ma vie et je peux pas dire que c'est haram. Voilà, c'est tout. Je vais vous donner, j'ai entendu dernièrement, ou je sais plus, peut-être j'ai vu une vidéo sur YouTube, subhanallah, c'était touchant. C'était vachement touchant. Une dame, une américaine, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, si vous voulez, j'essaierai de vous la retrouver. Une dame, une américaine, au début, elle faisait da'wa contre l'islam. Elle faisait da'wa contre l'islam. Je crois que c'était une chrétienne. Elle faisait da'wa contre l'islam, c'est-à-dire elle prêchait contre l'islam. Et elle avait besoin, pour prêcher contre l'islam, à un moment, elle a eu besoin d'aller étudier le Coran. Elle s'est convertie. Écoutez bien, elle s'est convertie. Et une américaine. Et elle s'est mise à faire darwa. Elle est connue en Amérique. Hein. Donc moi, je ne la connais pas, j'ai juste vu la vidéo. Mais paraît-il, elle est connue en Amérique. Elle a commencé à faire des conférences, à faire darwa, tout ça, à aider les gens et tout. Et elle est... qu'Allah lui fasse miséricorde et lui attribue le paradis. Elle a eu un accident de voiture et elle est morte. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans la vidéo, ils disent que jusqu'à aujourd'hui, le bien qu'elle a fait lorsqu'elle était vivante, la darwa, elle continue. Sa darwa, elle continue. Alors, a'oudhou billahi minash shaitani rajim, j'ai oublié le rapport pourquoi je vous ai raconté ça. Wallah musta'an. Vous savez, un des stratagèmes du shaitan, c'est de nous faire oublier. C'est de nous faire oublier pour, des fois, comment dirais-je, un petit peu faire tourner le cours dans le vide, mais c'est pas grave. Même si j'ai oublié pourquoi je vous ai raconté, ça a un rapport avec, avec le cours, c'est pas grave, au moins vous connaîtrez ce récit. Donc, concernant. Également le fiqh. Concernant également le fiqh. Question pour vous encore, à votre avis légiféré, hein, on se comprend bien. À quel moment, le premier moment, à quelle époque le fiqh il est apparu. À quelle époque? Cette matière, le fiqh, il est apparu. Alors, Cheikh Bilal, il nous dit, Mashallah, en même temps que la révélation, Abu Yusuf, quand le Coran est descendu, on a nos étudiantes aussi, en même temps que le Coran, très bonne réponse, Mashallah. Ça, on l'a fait, hein, dans les cours précédents. On a dit qu'il y avait des étapes d'évolution du fiqh et que la première étape d'évolution du fiqh, il faut savoir que d'ailleurs c'est pas que le fiqh, hein. Vous avez le fiqh, vous avez aussi le fiqh, les sciences du Coran également et bien d'autres, même la langue arabe, hein. Ce sont des matières qui sont descendues au moment de l'avènement, la venue de l'islam, la descente du Coran. Masha'Allah, barakallahu fikum. Vous aviez dit, quand le Coran descend, il donne vie à toutes les matières. Quand le Coran descend, il donne vie à toutes les matières. Barakallahu fikum, c'est une très très belle parole en trois lignes. Hein. Voilà comment définir une bonne réponse à cette question. Vous avez dit, quand le Coran descend, il donne vie à toutes les matières. Donc ça, il faut le savoir, hein. Ça, il faut le savoir. Faut pas entrer dans l'ambiguïté. Alors, pour être un peu plus précis, faut pas entrer dans l'ambiguïté de dire que Usul Fiqh, le Fiqh, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Les règles de Usul Fiqh, le Nahou, la grammaire arabe, ça n'existait pas. Tout ça, faut pas dire ça. C'est une erreur. Parce qu'en fait, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il n'existait pas sous la forme qui est connue aujourd'hui. Qui est connu aujourd'hui chez les musulmans. Il n'existait pas, ces matières-là, elles n'existaient pas sous la forme connue aujourd'hui. Le fiqh, il n'y avait pas des livres de fiqh. Alors, j'aurais une question, je ne sais pas, ne m'en voulez pas si à chaque fois je dis je ne sais pas si on l'a fait avant. Je vais, à la kulli hal, je vais bien rectifier ça pour plus vous le dire, Inch'Allah. Je m'en excuse. Mais. Alors, selon nos connaissances aujourd'hui, une autre question, si toutes ces matières, elles n'existaient pas, comment faisaient les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pratiquer? Ils faisaient comment? Comment faisaient-ils? Il n'y avait pas les conditions de la prière, il n'y avait pas définition du fiqh, il n'y avait pas tout ça. Ils faisaient comment les compagnons pour être des savants? Même si on l'a pas fait avant, c'est pas grave, ça va venir. C'est très profitable pour vous. Aujourd'hui, c'est un cours sous forme de questions-réponses. Hein. C'est très profitable. Les ulama, ils font ça. Hein. Ils ont même des ouvrages, questions-réponses sur Kitab Tawhid, par exemple. Ça, c'est un ouvrage qu'on va enseigner à l'institut. Si vous savez pas, c'est pas grave. Vous allez. Il prenait la science, mashallah, directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Qui avait la révélation, il demandait au prophète, Allah ibarak. On voit qu'il y a des gens, Allah ibarak, pour pas leur faire porter préjudice, on dit toujours Allah ibarak, tbarakallah, mashallah. On voit qu'ils ont un certain potentiel scientifique. C'est très bien. Que ce soit chez les étudiantes ou les étudiants également, en suivant le prophète, car ils étaient à leur côté, car il était à leur côté. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, Cheikh Bilal. Mashallah. Ils avaient le plus savant des savants quand le Coran est venu. Abu Yusuf, Cheikh Bilal. Formidable, formidable. Mashallah. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Alors, en fait, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tellement savants qu'ils n'avaient pas besoin de toutes ces règles, tous ces livres. Ils avaient ce qu'on appelle le masdar al-asli, c'est-à-dire ils avaient le masdar, la source principale. Donc eux, si vous voulez, ils étaient, excusez-moi du terme, c'est pas, c'est une parabole pour que vous compreniez. Hein. Ils étaient des ouvrages ambulants, hein. Des ouvrages de fiqh, de langue arabe ambulants, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils avaient tout ça de inné. Alors, pourquoi, là je vais y répondre parce que je ne sais pas si les élèves pourront répondre. Alors dans ce cas, pourquoi il a fallu par la suite, si on pouvait acquérir la science directement comme ça, à la source, pourquoi à la suite alors les savants, alors pourquoi à la suite il a fallu faire des ouvrages, des règles, faire des matières individuelles, et également compiler toutes les sciences, bah alors pourquoi? Je sais que il y a des anciens élèves qui suivent les cours, certains cours le matin. Je sais qu'eux, ils ont les réponses. Mais voilà, pour préserver ces règles et préserver la religion de toute innovation. Allah ibarak, mashallah, très bonne réponse. Très bonne réponse, mashallah. Pour préserver ces règles et préserver la religion. Subhanallah, c'est exactement ça. Ils demandaient au prophète, au-dessus, j'avais pas vu. Ahsant. Naham. Alors. C'est pour la préserver. C'est pour préserver la religion. Le niveau est devenu faible. Abu Yusuf, Ahsant. Alors tout le monde a bien répondu. Mais Abu Yusuf, là, il a tapé dans le. Car l'islam s'est répandu et donc pas les mêmes mœurs. Effectivement, c'est une réponse également. Également, il a fallu. Alors, pas changer. Hein. On n'utilisera jamais le terme changer. Là, je parle pour moi. Mais il a fallu s'adapter. Et Cheikh Abou Youssouf, là, il nous a donné une réponse. Le niveau est devenu faible. Retenez bien ça, barakallahu fikum, parce que ça, c'est la réponse principale, c'est qu'en fait, on n'a pas le niveau des compagnons. Le niveau, à la suite, il est devenu tellement faible. Vous savez pourquoi, à la suite, avec le temps, il a fallu faire une matière qui s'appelle la langue arabe, alors que les compagnons, ils étaient des savants dans leur langue. Des poèmes, des... À votre avis, pourquoi? C'est parce qu'avec les mœurs, c'est pour ça que c'est une bonne réponse, les mœurs qui se sont mélangées. Alors les ulama, ils disent mélanger avec les étrangers. La langue arabe, elle a commencé à se perdre, des erreurs dans le nahou, dans la grammaire qui étaient à l'époque inenvisageables. Et là, ils ont commencé à faire des matières. Les règles d'usul, fiqh, il y a les gens. Alors là, c'était une très bonne réponse également, les innovations. Parce qu'il y a les gens de l'innovation, ils ont commencé à inventer des règles, à vouloir changer. Alors, s'ils auraient voulu, ils auraient pu, wallahu a'lam, hein, ils auraient même changé le Coran, a'ouzou billah. La sunna, ils ont réussi d'un certain côté en introduisant des faux hadiths, des hadiths inventés, des hadiths israélites. Mais par la grâce d'Allah, les ulama, ils ont fait un travail. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail. Pour faciliter l'accès, très très bonne réponse également. Très très bonne réponse. Pour faciliter l'accès. Quand tu as des petits livres de base comme ça, des petits épîtres de savants, comme on est en train d'étudier nous, par exemple, la méthodologie, aujourd'hui, à notre époque, comme on est en train d'étudier nous, on va pas prendre dans le fait qu'on va pas prendre directement des gros livres avec des gros tomes comme, comment il s'appelle, Al-Mughni. Al-Mughni, par exemple, c'est une grosse pointure hein, dans le fiqh. Chez les Hanbalites, c'est haut niveau. Et on va pas commencer par ça. C'est trop dur. Ils nous ont facilité, les ulama, avec des petits épîtres. Vous voyez, par exemple, les trois fondements. Al-Wajibat, Al-Mutahattimat. C'est des tout petits épîtres, mais costauds. Petits, mais costauds. Et petit à petit, tu vas faire des épîtres. Après, tu vas commencer à faire des livres. Un volume, deux volumes. Et ensuite, on va entrer dans ce qu'appellent les ulama, Al-Kutub Al-Mutawwala. Ce sont les livres. En arabe, les Kutub Al-Mutawwala, c'est les gros livres. Après, qu'on fera après. Pour ceux qui vont patienter. Parce que, retenez cette faïda, ceux qui vont acquérir la science, c'est ceux qui vont patienter, qui vont rester. Ceux qui vont pas réussir à rester, ils vont prendre au début des petites bases, des fragments, mais ça ne sera pas comme ceux qui vont patienter et peut-être ils vont devenir des prêcheurs, des prêcheuses, des enseignants qui donnent des cours, ou alors même pour eux-mêmes et leur famille, ils vont être capables de faire da'wa à leur famille. Et là, même ça, tu as tout gagné, hein. Ne compte pas sur les autres pour donner des cours à tes enfants. Ne compte pas sur les écoles. Déjà, des écoles de gens de la Sunna, il n'y en a pratiquement pas. Les écoles publiques, à la base, c'est interdit. Ils vont te massacrer tes enfants. Et puis, si toi, t'apprends pas, ben voilà, tes enfants, ils vont être comme nous. On a évolué, on connaît pas la langue arabe, on connaît pas la religion. Voilà. Donc, faut apprendre pour que toi, tu sois capable de donner à tes enfants. Demain, tu sais pas, tes enfants, ils vont aller dans une école. Moi, ça m'est arrivé, hein. Malgré que c'était une école musulmane, et ils viennent, ils te demandent, Abi, la prof d'éducation islamique, elle a dit, elle a parlé des attributs d'Allah, elle a dit ça, ça, ça. Et toi, si tu es capable de lui. C'est du tawhid. Si tu es capable de lui expliquer, tant mieux pour toi. Si tu dis non, je sais pas, elle va rester avec une ambiguïté. Ton enfant, il va rester avec une ambiguïté. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi c'est très, très, très important. Qu'est-ce qu'on a encore? Il me semble qu'on avait parlé. On avait parlé. Alors, dans le fiqh, est-ce que vous êtes capable de nous citer. Des ouvrages, on va dire plutôt contemporains, parce que les anciens, ça va peut-être difficile, mais celui qui peut, tant mieux, nous citer des titres d'ouvrages anciens ou contemporains dans la matière du fiqh, hein, dans la matière de la jurisprudence ici. Même si vous connaissez un nom en français comme ça, vous avez le livre à la maison, n'importe. Le but, c'est de participer et d'être capable de dire, voilà, dans le fiqh, moi, je connais tel livre. Par exemple, n'importe, hein, même si vous avez un livre à la maison, la jurisprudence des femmes, questions-réponses pour les femmes, n'importe. Minhaj al-Salikin, mashallah, très bien. Manhaj al-Salikin. Boulour al-Marram, très bien. Très bien la réponse de Boulour al-Marram. Fiqh as-Sunna, oui, très bonne réponse. Mashallah, vous voyez, vous connaissez. On a tous un livre comme ça qu'on connaît dans le fiqh, ça ressort pas forcément tout de suite. Murakhas al-Fiqhi, très bonne réponse. C'est un livre que j'aime bien. Je suis en réflexion en ce moment, c'est peut-être celui-là qu'on va faire dans votre classe, je vous expliquerai pourquoi. Peut-être on va faire celui-là. Fiqh as-Sunna pour les femmes, effectivement, oui. Fiqh as-Sunna pour les femmes. Moi, j'ai même, je regarde en face de moi là, je sais qu'on en a en français. Hein. Justement, Fiqh as-Sunna pour les femmes, il est devant moi. J'ai aussi conseil aux femmes musulmanes. Je le vois devant moi ici. La fatwa, avis juridique pour les femmes également. Alors, vous voyez, il y en a. Hein. Tout ça, c'est du fiqh. Zed el-Mi'ad, oui, Zed el-Mi'ad. Hein. Arsent, Sheikh Naïm, Mukhtasar al-Khadri ou al-Akhdari, Naham, je vois pas, mais si tu es sûr, il n'y a pas de souci. Boulour al-Marram, je connais plus Mukhtasar al-Fiqhi, je dis pas, hein, mais j'ai rien en tête là. Mais si toi t'es sûr, Sheikh Bilal, alors on valide. Hein. Voilà, vous avez également Zed el-Mustaqni', vous avez Amdat el-Ahkam, recueil de fatwa concernant les femmes, oui, effectivement. Ça a été beaucoup fait en français, ça. Il y a beaucoup de livres en français dans le fiqh qui sont très profitables. Hein. Vous savez, au début, si moi, vous savez que j'ai commencé comme ça en arabe dans le fiqh, je lisais beaucoup les fatwa Nissa, les avis juridiques sur les femmes. Je lisais beaucoup ça. Ça nous a apporté beaucoup. Donc voilà. Sur le fiqh maliki taoustev. Ah, barakallahu fik. D'accord, Sir Bilal. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Je suis plus connaisseur du fiqh al-hanbalite. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, mashallah. Barakallahu fik, Sir Bilal. Donc voilà. Très très bonne réponse à vous. J'essaye de trouver où on s'était arrêté dans le cours précédent. Ah oui, je me souviens où on s'était arrêté. On ne pourra pas parler de ce sujet aujourd'hui. On ne pourra pas parler de ce sujet aujourd'hui. Ça, c'est un cours entier. Donc, dans le prochain cours de FIRQ, ah, on avait dit. Alors, la dernière question. Pour vous, on avait dit que le fiqh, il a certaines particularités en lui-même, c'est-à-dire des points forts, des points intéressants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le fiqh, sur le fiqh, les particularités du fiqh? On en avait cité quelques-unes. Hein. Et ensuite, on s'était arrêté là, sur tous les cours de fiqh qu'on a fait, on s'était arrêté là. Le fiqh est intemporel. Masha'Allah, Cheikh Bilal. Masha'Allah. Le fiqh, il est intemporel. Ça ne veut pas dire qu'il change, retenez bien, mais ça veut dire qu'il s'adapte. Les gens qui disent il n'y a pas de. Y a des questions religieuses où il faut changer le fiqh parce que ça ne fonctionne pas, c'est faux. Hein. Les ulama, ce qu'ils font, c'est que toutes les preuves de base, elles sont dans le Coran. Si nous, on ne connaît pas, c'est parce qu'on est ignorant, c'est pas parce que ça n'existe pas. Mais les savants, ils disent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des analogies. On va la voir après, l'analogie, on va l'étudier. Ils font une analogie par rapport à une preuve qui existe déjà dans le Coran, et ils font une analogie pour donner un jugement sur une question qui existe aujourd'hui. Par exemple, c'est un exemple tout bête hein, que je vais vous donner. Par exemple, oh, il n'y a pas de preuve que dans le fiqh, on n'a pas de preuve que la voiture, c'est halal. Les savants, par exemple, ils vont faire une analogie. La voiture, c'est une monture, au même titre que le cheval, le chameau, etc. C'est ce qu'on appelle une analogie. Donc, on dira que la voiture, c'est halal. Là, on n'a pas changé la religion, on a juste adapté à partir d'un texte le jugement. Mais ça, c'est un long enseignement qu'on fera. Naham. Alors, Il traite la partie mondaine, mais pas seulement une part traite l'au-delà aussi. Très très bonne réponse, mashallah. On avait parlé de ça, je m'en souviens. Très très bien. Allahi barak, mashallah. En fonction de l'époque et du contexte, naham, prendre en compte les us et coutumes de chaque peuple sans modification. Ahsant, mashallah. Il y a des choses qui vont venir s'adapter, voire changer, mais ce n'est pas la religion qui change. Ça va être des règles par rapport à certains paramètres, etc. Mais on ne dira jamais que la religion change. Très bien, hein, les étudiants, les frères. Le firq est fondé sur la révélation d'Allah et la sunna, la législation et les jugements se trouvent dans le firq. Mashallah. Félicitations. Franchement, ça aurait mérité. Ça aurait mérité Allah Ibarak. Mais on vous laisse le temps de vous adapter à cette nouvelle classe, l'Institut. Mais franchement, ça aurait mérité des points là. Dès le début, ça aurait mérité des points. Mais ne vous inquiétez pas. Y aura des occasions hein, pour prendre des points. Des notes, hein, des bonnes notes. Ne vous inquiétez pas. Alors. On avait vu aussi l'intérêt communautaire et l'intérêt individuel. Mashallah. Félicitations à vous. Hein. Alors, on va essayer de donner une dernière faïda. C'est plus dans la méthodologie d'enseignement. On va essayer de donner une dernière faïda. C'est que, vous savez, lorsqu'on donne un cours, regardez, vous avez... des élèves ici à l'Institut, pendant le question-réponse, ils ont été capables de bien répondre, etc. Une des causes, je pense, hein, ils me rectifieront si je me trompe, une des causes, c'est que Allahu A'lam, ils ont dû prendre des notes, ou alors Allahu Ta'ala, il leur a donné une bonne mémoire. Mais en tout cas, le cours, lorsqu'on fait un cours, ça reste, vous voyez, ça reste ancré le cours. Donc si on leur pose des questions, ils sont capables de répondre aux questions du cours. Et ça, c'est la faïda que je vous donne aujourd'hui. Vous devez essayer d'acquérir cette capacité. D'accord? Il faut absolument que vous soyez tous capables de faire ça. Pourquoi? Parce que si tu es capable de faire ça veut dire que le talab al-ilm, il va s'ancrer en toi. C'est de cette manière-là que ben voilà, tu pourras même donner les. Tu seras capable. Même de redonner le cours, d'enseigner le cours, si tu as bien compris comme ça, si tu as assimilé le cours. Pour toi-même déjà, c'est très important. D'accord? Donc ça, c'est une technique. Retenez-la bien. On ne dit pas qu'à chaque cours, on va faire des interrogations comme ça ou quoi. Mais peut-être qu'à chaque cours, on dira en chaque début de cours, une ou deux questions. Mais on ne fera pas tout un cours question-réponse à chaque fois. Sinon, on ne fera jamais cours. Taïb. En tout cas, barakallahu fikoum à tous, hein, à tous pour votre participation. Dans le prochain cours, on va voir quoi? Dans le prochain cours, on va voir que il y a des gens concernant le fiqh qui ont prétendu que le prophète, il est parti, alayhi salatu wassalam, il est parti chercher le fiqh chez les Romains, chez les gens d'avant, les chrétiens qui étaient déjà instruits. Il y a des gens, ils ont prétendu ça. Donc, on aura tout un petit exposé avec, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire plus, des répliques. Comment répliquer à cette ambiguïté dans le fiqh? Ou même dans la religion, carrément, hein, de dire, déjà, il était illettré, le prophète, et en plus, il n'avait pas voyagé au point de rencontrer les... de prendre des choubouhats, plutôt de prendre le firq chez les Romains, chez les chrétiens, etc. Mais à la kulli hal, on verra tout ça dans le prochain cours. Barakallahu fikum. Ce cours, donc, il touche à sa fin. Wa subhanakallahumma wa ma bihamdik. Wa iyyak, Cheikh Abu Yusuf. Wa iyyak. Wa iyyak. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wafik Barakallah, Cheikh Bilal également, Cheikh Abu Yusuf, Cheikh Bilal. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khayran, ainsi qu'à ceux qui travaillent et avec vous pour nous permettre d'apprendre la science. Wa iyyakum, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir et c'est un plaisir. Wahayakum Allah, on se donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour la suite des cours. Pour certains ce soir et pour d'autres demain matin. Wahayakum Allah, wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.